Point fixe, ma guerre d'Algérie.
Daniel Simon, dialogue avec Marie-Hélène Dupuy. Ce que l'on appelle aujourd'hui en France « guerre d'Algérie », la reconnaissance de ce terme ne date que de 1999, mais que l'on a longtemps simplement appelé « les événements d'Algérie », pour en nier le caractère guerrier, et que les Algériens appellent « guerre de libération nationale », s'est déroulée de 1954 à 1962 en Algérie, alors colonie française depuis 1830. Cette guerre s'est achevée le 3 juillet 1962 avec la reconnaissance de l'indépendance du territoire. De 1954 à 1962, un nombre croissant d'appelés du contingent fut envoyé en Algérie pour des opérations dites de maintien de l'ordre ou de pacification. Pendant cette période, ce sont 1 343 000 appelés ou rappelés qui participeront à ces opérations et viendront s'ajouter à 407 000 militaires d'actifs. Il faut noter que parmi ces appelés, 12 000 ont été déclarés réfractaires, dont 10 831 insoumis, ce sont des appelés qui ne se sont pas présentés lors de leur appel, 886 déserteurs et 420 objecteurs de conscience. Enfin, la durée du service, qui était de 18 mois jusqu'en 1957, est ensuite passée à 30 mois. Parmi ces nombreux appelés, Daniel Simon, né en 1941 et qui fut appelé sous les drapeaux, comme on disait à l'époque, le 15 mai 1961, à l'âge de 20 ans. Daniel, qui a accepté de raconter sa guerre et avec qui je vais dialoguer tout au long de ses chroniques. Le point de départ, Daniel, c'est donc ta mobilisation le 15 mai 1961. Nous sommes donc à un an de la fin de la guerre, mais bien sûr, tu ne le sais pas encore. Peux-tu nous raconter comment s'est passée ta mobilisation ?
Oui, bien voilà, bonjour à tous. Je vais donc parler avec Marie-Hélène de cette guerre d'Algérie qui était rendue presque à sa fin, mais effectivement, comme l'a dit Marie-Hélène, personne ne le savait. Ça tournait mal, mais c'était toujours les combats. Donc j'ai été mobilisé et le 15 mai 61 et on m'a demandé d'aller à Meaux pour
Meaux en Seine-et-Marne.
Meaux en Seine-et-Marne pour faire la journée de mobilisation où on nous a reçus correctement, hein. Et puis, on nous a dit qu'on allait d'abord faire nos classes pendant 3 mois en France, que j'ai fait à Compiègne. Et ensuite, on m'a dit qu'on allait m'envoyer par bateau en Algérie pour la guerre.
Alors, même si on ne l'appelait pas comme ça à l'époque.
On ne l'appelait pas comme ça à l'époque, mais... Bon, c'était la réalité, hein. C'était pas pour aller faire joujou. Donc, voilà, la mobilisation, ça s'est passé rapidement, hein. Et donc, ça a été des petits interrogatoires, parce que, des petites interrogations écrites, parce qu'il y avait beaucoup de gens, il en existe moins maintenant, mais qui ne savaient même pas écrire correctement même le français. Donc ces gens-là avaient un parcours un peu spécial. Hein. On va leur apprendre le français pour certains. Et il y en avait qui ne savaient pas écrire correctement aussi. Il y avait un peu une évaluation grossière des gens. Et donc il y avait même pour ceux qui le voulaient, une demande pour être officier, puisqu'il y avait des gens qui étaient éventuellement intéressés par ce genre de parcours. Ce n'était pas mon cas.
D'accord, donc toi, ben, tu as été incorporé comme n'importe quel soldat, enfin appelé, voilà.
Hein. Dans l'armée de l'air. Voilà. C'est pas moi qui ai choisi, on m'a dit, voilà, vous allez dans l'armée de l'air. D'accord.
Tu n'avais jamais fait d'avion.
Non, mais bon, on m'a mis un calot bleu et puis une capote bleue, le matériel bleu, voilà, comme dans l'armée de l'air maintenant, ça n'a pas changé.
Donc pendant ces 3 mois de classe, bon, tu vas raconter un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, mais est-ce que vous parliez beaucoup de votre futur en Algérie ou...
Non. C'était une période qui était très incertaine pour nous parce que il n'y avait pas de communication. De la part des officiers, il n'y avait pas d'échange. C'était un peu chacun pour soi. On était un peu perdus, là. On est allé donc à Compiègne. Et Compiègne, c'était pas en centre-ville, hein, c'était en bord de ville. Et donc, il y avait la forêt de Compiègne qui n'était pas là, où d'ailleurs on allait faire des exercices qui étaient essentiellement constitués de marche à pied et de marche à pied avec un sac à dos, des armes. Et puis on devait nous apprendre à tenir correctement des armes, à surtout ne jamais l'abandonner. Je me rappelle d'un jour où je l'ai laissé à par terre à côté de moi. Je me suis fait remonter les bretelles rapidement. Et donc, voilà, on marchait. Quoi. On apprenait à marcher et à courir. Et puis, on passait les journées comme ça. Et puis, il y avait aussi ces moments de discussion. Et puis aussi de soins médicaux, parce qu'il fallait nous apprécier sur le plan médical, savoir si on était en bon état ou pas, si on avait des problèmes dentaires ou pas. Donc il y avait tout ça. Il n'y avait pas d'échange ensuite avec les officiers, c'était un peu chacun pour soi. Bon, on a fait le tour un peu du terrain militaire de Compiègne, là. Et puis, moi, je me rappelle que j'ai eu l'occasion de regarder ce que c'était qu'une prison, parce qu'il y avait déjà des gens qui étaient emprisonnés, parce qu'ils avaient fait des bêtises, ou ils avaient essayé de sortir pour aller se promener, des trucs comme ça. Et donc, on les mettait au cachot, là, à l'entrée du terrain militaire. Il y avait un cachot, effectivement, on passait devant.
Et entre vous, entre soldats, est-ce que vous parliez de...
Non. Je te dis, c'est une période où c'était vraiment une période de non-communication, quoi. Il n'y avait pas d'échange.
Est-ce qu'il y avait une forme de déni, à ton avis, de la part de tout le monde, finalement, de se dire, on va faire la guerre, mais en fait, on ne le dit pas. Enfin, est-ce qu'il y avait quelque chose de ce genre ?
Non, je ne me rappelle pas. Hein, on était, en fait, je pense pour certains, à chercher comment on pouvait éviter, enfin c'était mon cas en tout cas, pour porter des armes. Il y avait des gens vraiment qui n'avaient pas du tout envie de servir d'armes et pour tuer des gens ou pour les blesser, quoi. Ils n'avaient pas du tout envie de se lancer là-dedans. D'accord. Mais ça n'allait pas, il n'y avait pas d'échange entre nous là-dessus, c'était... un peu chacun pour soi.
Et quelle a été, du coup, ta position par rapport à ce fait que tu ne voulais pas avoir d'armes, porter d'armes ou au moins tirer ? Est-ce que tu as envisagé plusieurs choses à ce moment-là ?
Oui, alors moi, j'ai envisagé plusieurs choses. Il y avait ce qu'on appelait les réfractaires, les gens qui ne voulaient pas porter d'armes. Alors, on les appelait les objecteurs de conscience, les objots. On appelait objots. Alors... moi, j'ai cherché à savoir rapidement qu'est-ce qu'on en faisait, ces gens-là. Alors, j'en parlerai plus tard dans une émission future, mais les objets, on les envoyait dans le sud algérien, à la frontière marocaine, dans un oasis qui s'appelle Tindouf. Et on les faisait travailler fortement, on leur faisait déplacer des tas de sable d'un endroit à un autre. We'll be right back. on leur demandait régulièrement, bon ben voilà, est-ce que tu veux faire la guerre normalement comme tout le monde ou est-ce que tu veux continuer à t'objecter à la guerre? Alors, selon leurs réponses, c'était différent, c'est-à-dire que, ou bien les gens, non, moi de toute façon je refuse toujours. Alors bon, ben, à ce moment-là, ils refaisaient la même durée de période d'armée que celle qu'ils avaient. Donc il y avait des gens qui doublaient leur durée de service militaire simplement pour avoir refusé de coopérer, entre guillemets.
Oui, on leur faisait payer cher, quoi.
On le faisait payer très cher, parce que dans ce temps-là, objecteur de conscience, c'était pas la rigolade. Hein. Après la guerre, moi j'ai entendu parler de ça, les gens pouvaient très bien écrire une lettre à l'armée pour leur dire « moi, je suis objecteur de conscience, je veux pas y aller ». Et on les laissait ne pas y aller, effectivement. Mais pendant la guerre d'Algérie, objecteur de conscience, c'était un choix qui était vraiment un choix de militant. Alors moi, j'ai laissé tomber ça tout de suite, parce que j'ai dit « jamais je pourrais tenir à ce coup-là ». Donc j'ai cherché autre chose. Et je dis « tiens, je vais demander à être infirmier, parce qu'infirmier, tu portes pas d'armes ». Donc, je vais bien voir. Et donc, c'est ce qu'on va dire au cours de ces journées de classe. Devant les officiers, j'ai demandé, est-ce que je pourrais pas être infirmier? Et là, j'ai eu un coup de bol terrible. L'officier qui m'interrogeait m'a dit « Ben, c'est d'accord, on a une place, tu pourras faire l'école d'infirmier en Algérie lorsque tu arriveras à Maison-Blanche. » Maison-Blanche, c'était le terrain d'aviation, qui s'appelle plus comme ça, qui s'appelle maintenant Ouari Boumediene, mais qui s'appelait Maison-Blanche avant, à côté d'Alger. Et tu pourras faire tes classes là-bas en étant... Après les classes, je veux dire, tu pourras apprendre à être infirmier en rentrant dans un groupe qui était commandé par un sergent, on verra plus tard, qui était un peu fou.
Donc ces 3 mois de classe se terminent finalement avec l'accord qui t'est donné de ton affectation en tant qu'infirmier en Algérie.
Oui, enfin du moins de rentrer à l'école d'infirmier à Maison-Blanche.
Eh bien, c'est ce que nous verrons dans notre prochain épisode de ces chroniques. Merci beaucoup,
d'accord,
Daniel.
D'accord, voilà, avec plaisir.